moi, d'une part, un manager moderne, c'est un manager qui fait preuve d'empathie.
Votre valeur, c'est de donner de la vision et du sens. C'est comme ça que je définis le management, moi.
Qu'est-ce que je dis à mes équipes? Je leur dis, voilà, moi, je suis pas là pour vous noter. Moi, je suis là pour vous transmettre ce que je sais faire et vous servir de support. On est plus dans la transmission.
La plus grande richesse d'une entreprise, c'est pas ses produits, c'est pas sa notoriété, c'est pas sa trésorerie, c'est son personnel. À partir du moment où vous donnez envie au personnel, ça y est, vous savez que vous avez une boîte performante.
C'est une question qui a toujours passionné les capitaines d'industrie. Comment organiser au mieux le travail pour faire prospérer son entreprise? Le modèle inventé par Frederick Winslow Taylor à partir des années 1880, à la vie dure, cette organisation scientifique des tâches visait à analyser tous les gestes, les rythmes, matériaux, outils pour diviser au mieux le labeur à accomplir et éliminer surtout les temps morts inutiles. L'idée était aussi qu'il convient aux patrons, cadres, col blanc, de comprendre et de concevoir cette division du travail quand l'ouvrier, lui, exécute et s'en trouve éventuellement gratifié par un salaire en hausse s'il joue bien le jeu. Longtemps, très longtemps, ce modèle a prédominé, les ouvriers se muant en salariés, parfois bien qualifiés, mais répondant toujours aux ordres d'une hiérarchie qui définit les cadres. Or, depuis quelques années, des modèles alternatifs émergent. Il existe des entreprises où tous les collaborateurs sont égaux, des unités où des petits groupes choisissent qui les dirigera. Des firmes où les managers sont évalués, où ces évaluations se retrouvent sur le web interne, cela peut monter jusqu'au PDG. Des sociétés où il n'y a plus de comité de direction. D'autres où tout le monde travaille en open space pour être sûr de se croiser et de discuter de projets sur lesquels justement on ne travaille pas. Il y a aussi des patrons qui créent des plateformes internet pour demander à tout un chacun d'y poster des idées innovantes. Les meilleures, sélectionnées uniquement par les collaborateurs, seront mises en place et récompensées. Ici, autonomie, responsabilisation, collaboration sont les grands principes, avec souvent de vrais résultats à la clé. Ces patrons qui dirigent autrement, c'est un magazine signé Anne-Laure Chouin. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité aujourd'hui Valérie Castaignède. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes coach associée dans un groupe, enfin une entreprise plus exactement, vous me disiez, une association qui s'appelle La Fabcoop. La Fabcoop, ça veut dire
Ça veut dire la fabrique de coopération.
Et vous occupez évidemment de management et nous sommes avec Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Tara.
Alors on parle beaucoup de ces nouvelles pratiques managériales, vous avez voulu voir comment elles s'incarnent.
Oui, pour être tout à fait précise, j'ai fait un peu le chemin en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai d'abord rencontré des patrons dont la vision de l'entreprise m'a interpellée et j'ai ensuite voulu savoir dans quelle mesure les pratiques qu'ils ont mises en place étaient le reflet de nouvelles méthodes. Ce sont donc des personnalités que j'ai fait parler dans ce reportage. J'ai voulu explorer aussi les ressorts de la relation qu'ils ont tissée avec leurs employés. Dans tous les cas, ce sont des entreprises à but lucratif, donc des patrons qui ont besoin que leur boîte fonctionne, qu'elle rapporte de l'argent, mais des patrons qui ont mis dans leur personnel l'essentiel de la valeur de leur entreprise.
Et vous êtes rendue d'abord, Anne-Laure, dans une maison de retraite flambant neuve dans le 15e arrondissement à Paris.
C'est là que nous allons rencontrer Clémence Souquet, fondatrice de l'entreprise Frésia. Frésia fait dans ce qu'on appelle la silver beauté. Elle propose des soins esthétiques à des résidents en maison de retraite, mais aussi en hôpital et en clinique. Clémence a tenu à nous faire venir dans l'une de ces maisons de retraite où travaillent ses coiffeuses et ses esthéticiennes. Nous allons donc dans la résidence Orpea à Paris, rue de Castagnari.
On écoute votre reportage.
Bonjour.
Là, il y a un salon, oui, on dirait un vrai salon.
Ah oui. Frésia tient beaucoup à ce que les résidents soient coiffés comme dans un salon de coiffure en ville, donc avec magazines et produits comme en ville, enfin tout. Frésia a été créée en 2011. Le concept, c'est de créer des bulles beauté en maison de retraite médicalisée dédiée au grand âge. Nous sommes leaders en silver beauté. Et là, récemment, nous avons commencé à ouvrir des espaces beauté à l'hôpital et en clinique. Frésia a un chiffre d'affaires de presque 1 million d'euros, une vingtaine de salariés. On intervient principalement en Ile-de-France. C'est une entreprise qui a passé le cap des 5 ans, donc Frésia a aujourd'hui 6 années d'existence. Moi, avant, j'étais directrice commerciale dans un grand groupe et ma volonté était de créer une entreprise innovante avec un fort impact social et solidaire, et notamment auprès des personnes âgées, vulnérables et fragiles. Et et c'est tout naturellement que j'ai créé Frisia. Moi, il faut savoir que quand j'ai créé Frisia, j'avais aucune expérience évidemment entrepreneuriale, mais surtout je n'avais jamais travaillé en maison de retraite et je n'étais pas ni coiffeuse ni esthéticienne. Donc j'ai juste identifié un besoin puis créé mon entreprise. Encore une fois, l'idée c'était d'écouter les besoins de mes clients et j'ai créé une entreprise sur mesure, avec toujours dans un coin de ma tête de créer une entreprise avec mes propres valeurs managériales.
Alors, parlons-en.
Alors, mes valeurs, en fait, c'est principalement des valeurs humaines et solidaires. C'est de ne pas être dans une entreprise ultra pyramidale, quoique je pense que la hiérarchie est quelque chose d'important pour les organisations. Mais on est sur un management collaboratif. Chacun gère ses projets à son niveau, à son échelle. Et puis, on discute tous ensemble et puis on mène à bien un objectif qui est celui de proposer des solutions innovantes et bienveillantes auprès des personnes âgées.
Vous disiez, vous aviez ça dans un coin de votre tête. Pourquoi ? Parce que vous aviez eu des expériences précédentes qui vous avaient fait comprendre que, un autre type de management, ça ne marchait pas forcément ?
Exactement. Moi, j'ai subi un management très pyramidal, patriarcal, où finalement, j'étais contrainte de faire des réunions à 8h du soir où il n'y a absolument pas d'écoute, où lorsque je posais mes journées de congé, j'avais la boule au ventre. C'était vraiment... Moi, je viens de la génération à 39 heures. Quand j'ai commencé à travailler, on était à 39 heures et on nous expliquait qu'on n'avait pas le droit de prendre des congés avant une année. Il fallait rester tard le soir et pas partir avant 20 heures. Enfin, c'était un peu compliqué. Et je trouvais que c'était pas du tout productif. Finalement, on fait de la présence et on n'est pas efficace. Donc, moi, mon management aujourd'hui, c'est passons moins de temps en entreprise, passons moins de temps aux machines à café à discuter, à faire des réunions, soyons efficaces, on travaille et puis rentrons tous le plus rapidement possible chez nous le soir. En l'occurrence, moi je vais chercher ma fille tous les soirs à 18h30 et je suis pourtant une entreprise qui pèse presque 1 million d'euros avec une vingtaine de salariés et qui est leader en silver beauté en Ile-de-France. Ce n'est pas incompatible, tout ça c'est une question de gestion du temps de travail et je pense que aujourd'hui, les salariés mènent à titre personnel des tâches extrêmement compliquées et n'ont pas besoin d'être infantilisés au sein de l'entreprise. Ils sont tout à fait à même de gérer leur emploi, des projets et le faire sans avoir peur. Voilà.
Donc moi, je m'appelle Gladys. Je suis coiffeuse polyvalente depuis une vingtaine d'années, bientôt.
Quelles sont les différences par rapport à vos postes précédents dans la façon de fonctionner, par exemple ?
Alors, j'ai beaucoup plus d'autonomie. Beaucoup plus d'encadrement. J'ai une direction qui est très différente de ce que j'ai pu connaître avant, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sociables, beaucoup plus à l'écoute. On va plus, on va dire, fonctionner, je vais pas dire sous forme de sororité, c'est-à-dire qu'on est quand même relativement proches les unes des autres, on communique beaucoup, que ce soit par téléphone, par mail, par message, en extérieur même des heures de travail pour faire des points, des choses comme ça. Bon, sur le terrain, on est quand même relativement autonome, c'est-à-dire qu'on gère quand même notre temps de travail, on gère notre clientèle, nos plannings, mais malgré tout, on a quand même un encadrement derrière qui fait que si on a besoin de quoi que ce soit, on a plusieurs personnes qui sont joignables à n'importe quel moment de la journée.
C'est-à-dire que vous êtes à la fois libre et autonome et à la fois bien encadré. C'est paradoxal,
ouais.
Mais c'est
ouais.
Un peu ça.
Exactement, ouais. On va dire qu'au niveau relationnel, c'était pas du tout la même chose. On avait vraiment une différence entre le côté patron-employé, tandis que là, on a vraiment un relationnel qui est assez fort avec notre patronne, qui est très agréable. Par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, c'est d'ailleurs ce qui fait que je suis dans cette entreprise aussi, parce que le contact et le feeling est passé très rapidement et ça joue beaucoup. Mmh. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le métier qu'on fait, ça joue énormément, parce qu'elle est souriante, parce qu'elle est humaine, elle est très humaine même. Puis bon, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est très sérieux, qui respecte ses engagements, chose qu'on ne voit pas partout.
Moi, quand je recrute mes collaborateurs, évidemment, je choisis de travailler avec eux, mais je leur demande si eux choisissent de travailler avec moi, ils adhèrent au projet, si ça leur plaît, si quelles sont leurs motivations, mais dans le sens, qu'est-ce qui peut les intéresser finalement au sein de Frisia. Moi, souvent, quand j'ai une problématique, notamment quand on a des remplacements, quand on doit changer de site, je leur demande d'en discuter entre elles et de mener un projet. Notamment, j'avais une collaboratrice créatrices qui ne souhaitaient plus travailler le samedi sur un site. Et finalement, elle a trouvé toute une organisation. Elle a extrêmement bien géré avec ses clients et organisé avec ses collègues, etc. pour ne plus travailler le samedi. Bon, c'était la seule. Et tout s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'elle a trouvé elle-même des solutions que moi, je n'aurais pas trouvées.
Donc, ça signifie à la fois une certaine confiance que vous leur donnez et une certaine liberté, forcément.
Ah oui, une confiance. On ne peut pas travailler avec des collaborateurs sans confiance. Ce n'est pas possible. Se faire confiance sur les horaires, se faire confiance sur le télétravail, se faire confiance sur la gestion de projet, pour moi, c'est une clé de réussite. Alors, ça peut ne pas fonctionner quand finalement, j'ai eu malheureusement des collaborateurs qui n'adhéraient pas forcément au projet commun. Et donc, on ne travaillait pas forcément tous dans le même sens. Donc, du coup, comment ça se manifestait, par exemple, des absences répétées qui finalement se répercutent sur le reste de l'équipe qui doit pallier ces absences. Mmh. Donc ça, c'est compliqué, surtout pour du service à la personne. Mmh. Donc bon, là voilà, on n'est plus dans l'esprit d'équipe. Mais quand les intérêts personnels priment trop à ceux du groupe, ce qui est normal, hein, je comprends parfaitement qu'on pense d'abord à soi, mais parfois dans l'entreprise, il faut arbitrer, et ça c'est aussi mon rôle de chef d'entreprise, c'est de fixer des limites pour que finalement il y ait une équipe et puis un projet commun qui avance. Et ce qui est intéressant dans l'entreprise, et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'avoir cette relation de confiance avec mes équipes, c'est que nous sommes complémentaires. On n'a pas fait les mêmes études, on appartient à des réseaux différents, on n'a pas le même âge, mais on s'apporte tous quelque chose. Et c'est en ça que je trouve que les entreprises extrêmement pyramidales, avec le chef d'entreprise qui est tout en haut et qui finalement ne sait absolument pas ce qui se passe sur le terrain, pour moi, c'est des combats d'arrière-garde, quoi.
Dans cette maison de retraite, la philosophie du directeur Khaled Touri est un peu la même. La gestion du personnel est un vrai défi, car le travail demandé est très dur, mais tout cela peut se faire en harmonie. C'est le postulat de Khaled, qui par ailleurs donne des cours de management à l'université. Diriger autrement, selon lui, cela passe par des méthodes très simples.
Travailler la porte ouverte, ça c'est fondamental. La porte ouverte, c'est vraiment une technique de management et aussi d'accueil qui a fait ses preuves. Bien sûr, le premier jour, vous allez être alpagué par tout le monde. Mais sachez que si vous apportez des réponses, si on vous parle, vous arrêtez de travailler. Pas ouvrir la porte et avoir la tête baissée. Non, ouvrir la porte et être vigilant. Les gens vont rentrer et vous répondez aux questions des gens et vous les accompagnez réellement parce que c'est notre métier. Voilà. Et ça, c'est fondamental chez moi. Quand la porte elle est fermée, c'est que je ne suis pas là ou je suis en réunion.
Alors la question que je me pose du coup, c'est pourquoi, comment s'est fait le cheminement un petit peu ?
C'est dans l'observation, c'est dans l'observation. Moi j'ai accompagné des gens dans la création d'entreprises, même j'ai travaillé pour certaines entreprises, même quand j'étais étudiant, à manager des petites équipes, et je voyais que l'équipe était frustrée de ne pas être partie prenante de l'entreprise, de n'avoir que des consignes, pas d'informations positives. Et ces gens-là, ils me disent, je travaille pour l'entreprise A ou l'entreprise B, c'est pareil pour moi. J'ai le même planning, j'exécute ce qu'on me dit, mais il faut communiquer. Moi, ça ne me dérange pas de communiquer certains éléments qui sont déjà positifs, même des éléments qui relèvent de la gestion de l'entreprise, bien sûr, chacun a sa compétence, et de dire aux salariés, voilà où on va, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne pourra pas faire. Fondamentalement, il faut toujours donner une réponse à un collaborateur. Je passe beaucoup de temps à accompagner mes salariés pour qu'ils apprennent à faire que de faire à leur place. Aujourd'hui, ça ne me choque pas qu'un stagiaire, qu'un salarié vienne me dire « Avant de commencer, j'ai besoin d'avoir mon vendredi soir à partir de 16h30, j'ai besoin de ne pas avoir la cravate et j'ai besoin d'avoir l'ICP dans 3 semaines. » Si ça vous choque ça, c'est qu'on n'a pas compris la génération qui arrive. C'est une génération qui, la vie privée, prime sur le professionnel. Mes parents n'ont pas fonctionné comme ça. Moi, j'estime que je n'ai pas fonctionné comme ça non plus parce que je prenais les postes comme ça et je faisais mes preuves. Mais aujourd'hui, on est en face, tout métier confondu, on est en face de gens qui disent, écoutez, la vie privée, elle est importante parce qu'ils ont vu les parents finir mal peut-être, ils ont vu qu'ils n'ont pas profité, ils se disent, ma vie privée passe avant tout. Et des fois, au début, moi, j'ai des adjoints, pas ici, dans d'autres établissements, qui étaient un peu choqués, qui me disent « Oui, elle veut des vacances dans 2 mois parce qu'elle a prévu un week-end. » Je lui dis « Oui, mais je lui dis, si le profil correspond, bien sûr, vous lui accordez ça. »
Oui. C'est pas un discours dominant, hein ?
Oui, mais non, mais ce que je vous dis ça, mais c'est quelque chose qu'on n'applique pas encore. Mais dans les métiers du service, ils l'ont quand même compris en France, on l'a compris. Moi, je suis là pour donner un exemple. Parce que réellement, c'est qui fait le travail. C'est le reste de mon équipe. Je dis toujours à mes étudiants, quand vous arrivez dans un hôpital, que vous allez gérer dans une clinique, dans une maison de retraite, Quelle est votre valeur ajoutée intrinsèque ? Rien. Vous ne savez pas changer un résident, vous ne savez pas faire un pansement. Quelle est votre valeur vraiment dans l'organisation ? Votre valeur, c'est de donner de la vision et du sens. C'est comme ça que je définis le management, moi. C'est la seule définition que je retiens. C'est donner du sens et de la vision à ses collaborateurs. Avoir une vision globale du métier, il l'a maîtrisé, mais être humble sur chacun des métiers est super important. Si vous connaissez rien de la vie privée de vos salariés, si vous ne savez pas comment ils sont, moi, ça, je ne conçois pas, surtout mes salariés. Je ne connais pas tout le monde pour l'instant vraiment, mais je sais très bien s'ils ont un enfant malade et je peux leur dire comment il va, s'ils ont un parent malade, s'il faut que je les accompagne, ça ne me dérange pas de les accompagner en voiture et d'arrêter de travailler, d'aller voir. Voilà, ça c'est super important pour moi.
Très loin des maisons de retraite, c'est plutôt aux startups qu'on associe le management moderne. Avec sa hiérarchie plate, ses open space où l'on trouve des baby-foot ou des espaces de repos, et ses employés décontractés, ce modèle qui tend de plus en plus aux clichés fait rêver beaucoup d'entrepreneurs. Certains ont copié ces stratégies pour motiver ou fidéliser leurs salariés.
Donc ça va être l'espace de réunion ?
Ben là voilà, il y avait des placards au milieu. Là.
Nous nous rendons dans l'une de ces startups, Equesta, qui propose des stages, emplois ou contrats en alternance à de jeunes diplômés, une entreprise cofondée par Julien Menu.
On va commencer par le meilleur, la cuisine. Donc c'est là, tout le monde mange ici le midi ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour pouvoir se faire réchauffer, puis un petit plat. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un quartier très agréable, qui plus est dans un quartier central. Donc ça, c'est aussi d'ailleurs la logistique du lieu de l'entreprise, de la localisation. Ça, c'était un choix très réfléchi de notre part, de dire il faut qu'on ait un lieu accessible de tous. On se disait c'est intéressant de pouvoir recruter des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest facilement pour pouvoir venir nous rejoindre.
Devant leurs ordinateurs, une quinzaine de salariés, plutôt jeunes, dont c'est souvent la première expérience en entreprise.
Donc je m'appelle Johan Van Gogh, donc j'ai 28 ans et je travaille chez Equesta en tant que HR Business Developer depuis le début de l'année. Voilà. Quand on est plus jeune, on s'imagine vraiment l'image du même directeur d'entreprise, chef d'entreprise un peu dur. Voilà, on a des clichés sur un peu le monde de l'entreprise, la sanction, la punition. Donc voilà, c'est ce qu'on imagine, je pense. Mais pour moi, d'une part, un manager moderne, c'est un manager qui déjà fait preuve d'empathie. C'est très important qu'une personne soit à l'écoute des salariés, qui puisse aussi s'adapter voilà, aux difficultés, que ce soit au niveau travail, personnel. Parce que le travail, en effet, on est là plus de 8 heures par jour, mais en dehors de ça, les salariés ont une vie. Donc c'est vrai que de savoir faire preuve d'empathie, écouter et proposer également en fait, force de proposition sur voilà, des outils pour améliorer son quotidien au niveau du travail, que ce soit au niveau de la flexibilité sur les horaires ou autre. Donc c'est aussi ça.
Je dirais que la base, pour moi, c'est que ma première expérience professionnelle n'a pas été une expérience très facile.
Julien Menu, l'un des trois associés.
J'étais en phase de manager vieille école, assez dur. Ce qui fait que quand moi, je me suis retrouvé dans une situation de management, qui n'est pas arrivée tout de suite d'ailleurs, hein, mais il était très clair pour moi que je n'allais pas reproduire ce que j'avais vécu. Bah, dans la relation, on était très proche d'une situation d'harcèlement moral. Voilà, très clairement. Donc, quand on est jeune diplômé et on commence son premier job et puis qu'au-dessus on vous dit que vous n'êtes pas bon tous les jours, ben, soit vous craquez, soit à un moment donné vous dites le sujet c'est pas moi, le sujet c'est autre chose, ça vient d'ailleurs, donc il faut que je parte, il faut que j'arrête. Moi j'ai toujours privilégié le fait d'avoir des rapports naturels, simples et transparents avec les gens qui travaillent avec moi, tout simplement. Puis je pense que c'est une question d'époque aussi, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en 2000, très naturellement, on était dans les prémices de ce qui se fait très simplement aujourd'hui, à savoir un effacement du lien hiérarchique direct au profit d'une relation plus de formateurs à élèves, d'une certaine façon. On est plus dans la transmission. En tout cas, moi, je me positionne beaucoup plus là-dessus. Et aujourd'hui, très concrètement, qu'est-ce que je dis à mes équipes ? Je leur dis, voilà, moi, je ne suis pas là pour vous noter. Moi, je suis là pour vous transmettre ce que je sais faire et vous servir de support. Donc quand vous avez des difficultés, quand vous avez des problématiques que vous n'arrivez pas à résoudre, bah, faites appel à moi. Je n'ai pas forcément la solution. J'ai pas forcément la meilleure solution, mais il y a de fortes chances que j'en ai une en tout cas. Et ça nous permet de discuter et du coup d'avancer ensemble. Bien entendu, tout ce qui est question stratégique et vision moyen-long terme, ça reste les associés qui décident de l'organisation de l'entreprise, très clairement. Maintenant, on fait néanmoins une réunion collégiale tous les 15 jours. Bon, pour d'une part discuter des projets en cours, mais également faire remonter des demandes, des besoins, des idées. Et on fait assez régulièrement des brainstorming finalement sur des sujets en particulier, de façon à avoir les idées des uns et des autres et construire au final des projets qui emportent l'adhésion de tous. Je dirais que nous-mêmes, les associés, nous ne sommes pas, enfin, on se considère pas comme des workaholics. Donc, moi, je demande pas aux gens de rester jusqu'à 23h le soir. Je leur demande juste d'arriver à l'heure le matin. Après, chacun module et organise son travail comme il le veut. Donc, on a toujours fait attention à ce qui est déjà un respect de la vie personnelle et une vraie séparation entre le travail et la vie perso. Typiquement, on parle en ce moment du droit à la déconnexion. Bah, c'est pas un sujet pour nous parce que jamais on a obligé nos employés à... Enfin, moi, j'envoie pas de mail à 11h du soir en espérant une réponse à 11h02. Voilà. les anniversaires sont fêtés. Nous-mêmes, on organise au minimum deux très, très, très bons restaurants par an pour souder les équipes et puis s'assurer qu'elles discutent bien entre elles aussi. Parce que même si vous l'avez vu, voilà, nous sommes en open space, on n'a pas non plus une surface colossale, on n'est pas 2000 personnes, mais néanmoins 15 personnes qui travaillent sur 3 pôles peuvent avoir tendance à s'enfermer dans leur propre pôle. Donc on fait en sorte, et c'est d'ailleurs le rôle de notre responsable communication, qui a aussi un rôle de communication interne, et on a créé ce poste il y a 2 ans pour ça, pour justement favoriser le melting pot interne et la fluidité des échanges entre les uns et les autres, parce qu'on peut se dire que ce sont des jeunes, que c'est facile pour eux de discuter entre eux, et en fait, quand on creuse un petit peu, c'est pas si simple.
Alors, ben voilà patron, on est bien embêté, mais on vient déposer un préavis de grève.
Bah, si c'est une question de revendication, ça serait peut-être mieux qu'on en discute avant.
Ah non, nos cahiers de revendication, ils sont à jour. Non, voilà, patron, on est venus tous en délégation pour vous dire une chose. Tenez bon, vous laissez pas faire.
Bah, rassurez-vous, je me laisserai pas faire. Je me laisserai pas faire parce que maintenant, le groupe Benoît Lepape représente une force colossale. Et cette force-là, justement, je vais la remettre entre vos mains. Alors je me retire et je vous laisse tout. Je vous laisse tout, vous comprenez ?
Ce que vous nous proposez, c'est l'autogestion, quoi.
Ben voilà.
Céder son entreprise à ses salariés plutôt que d'en retirer des millions en la vendant à d'autres, c'est le choix qu'a fait Éric Belil, PDG de la GDB, la Générale de Bureautique, située dans l'Ouest. La Générale, comme l'appellent ses employés, fournit du matériel d'impression et des services informatiques aux entreprises, un secteur hyper concurrentiel, Éric Belil.
J'ai fait le choix de monter cette entreprise parce que je m'en sentais les compétences, les possibilités. Et j'avais à cœur de pouvoir mettre en place une notion de management qui, à l'époque, m'était propre et j'avais du mal à suivre celle des grosses entreprises où il fallait, dans la majorité des cas, en 1989, avoir le doigt sur la couture, respecter profondément certains critères, etc. Et je pense, moi, pour ma part, je n'ai pas changé d'avis, que c'est en laissant une certaine liberté au personnel, en le considérant qu'on va obtenir le meilleur de lui-même.
Et ça, vers les années 90, c'était pas du tout ancré dans la tête des managers de l'époque.
Ah non, ça, pas du tout. À l'époque, ne serait-ce que pour les équipes commerciales dans mon métier, ça correspondait à un basique bien précis. Tout le monde avait le même costume, etc. Le port de la cravate était obligatoire. Enfin bref, tout le monde devait se ressembler. Je pars d'un autre postulat. Chacun doit être soi, de manière à pouvoir laisser libre cours à sa personnalité. Et je crois que c'est beaucoup plus payant.
Là, c'est l'espace détente. Oui, oui, ça, par exemple, c'est fait de toute main. J'étais enceinte de 9 mois et quelques jours et je peignais le mur qui est juste là. Avec Florian et Romain, donc les autres associés, on est venu tout un week-end peindre ici au pistolet, un samedi, un dimanche. Voilà, c'est aussi ça, quoi. Ouais. C'est qu'on ne voit pas ça dans les autres entreprises. Il y a toujours un peintre qui se déplace, on paye un professionnel pour faire. Bah, nous, on a voulu notre espace détente, on l'a fait. Voilà. Et donc ici,
45 employés, un chiffre d'affaires florissant, qui a d'ailleurs tout de suite intéressé deux potentiels repreneurs, une position reconnue dans la région et sur le marché. Bref, la GDB, c'est une affaire qui tourne.
Ben, je vous présente Florian. Florian est responsable de tout ce qui est solutions documentaires dans le cadre du groupe. Il est également attaché commercial. Enfin bref, tout le monde ici a pas mal de casquettes.
Donc vous, vous êtes depuis combien de temps dans l'entreprise ?
Alors ça fera 7 ans en août prochain.
Et vous êtes rentré en tant que ?
En tant qu'alternant en formation pour la partie bureautique. Photocopieur. Et puis bah, de fil en aiguille, je suis passé attaché commercial confirmé et notre métier a évolué. Donc on fournit des solutions logicielles, documentaires. Et donc aujourd'hui, j'ai une double casquette, voilà, un petit peu comme chacun d'entre nous.
Quand vous êtes entré dans l'entreprise, est-ce que vous imaginiez que vous en deviendriez actionnaire ?
Non. Non. Pour être tout à fait franc, pas du tout. Pas du tout. C'était d'abord une formation, puis après un travail. Et au fur et à mesure du temps, oui, l'investissement humain était de plus en plus important. Et on a formé une équipe très soudée et on est là pour faire évoluer. Donc oui, c'est une vraie chance.
Comment à un moment vous vous êtes dit, bon, il va falloir que je laisse la main peut-être ? Et est-ce que vous êtes allé voir ailleurs ? Est-ce que, voilà, transmettre une entreprise, c'était peut-être pas au départ le... Enfin, vous pensiez peut-être tout simplement la vendre ? Enfin, comment s'est fait tout le parcours ?
J'ai été approché par des constructeurs, des sociétés qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres, et des fonds de pension également. Je me suis rapidement rendu compte que ils allaient faire la même chose que moi, parce que moi, j'ai racheté quand même pas mal d'entreprises, et que le plus gros poste dans une entreprise, c'est la masse salariale, et qu'il y allait avoir pas mal de doublons, et que tous ces doublons allaient donc... nécessairement disparaître. Mmh. Ça correspondait à peu près au tiers du personnel. J'ai définitivement tourné la page parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un tiers du personnel se retrouve sur le carreau au moment où j'allais partir. On a cherché d'autres solutions et c'est pas moi qui les trouvais, ce sont justement les cadres. J'ai été les voir pour leur dire, moi j'aimerais bien vous céder l'entreprise, mais il faudrait trouver une solution. Or, céder une entreprise comme la nôtre, aucun particulier ne peut le faire, c'est pas possible, ça se compte en millions. Et ils ont trouvé une solution par le principe de LBO, Leverage Buyout, qui est une société holding que nous avons créée au capital de 500 000 euros. J'y participe pour 51% et eux ont pris 49% à 5. Donc là, du coup, ça devient possible comme investissement pour un particulier, d'autant plus que ils sont tous relativement jeunes et endettés. Et l'emprunt est donc payé par les résultats de l'entreprise. Donc je m'engage, moi, à ne pas prendre de dividendes et que l'entreprise puisse régler au fur et à mesure auprès des banques les annuités d'emprunt, ce pour 7 ans.
Donc aujourd'hui, il y a une partie des bénéfices de l'entreprise qui vont au remboursement de l'emprunt ?
Tout.
Tous les bénéfices ?
Oui. Il n'y a pas de distribution de bénéfices ou de dividendes auprès des actionnaires. Vendre à ses salariés, c'est quand même le parcours du combattant. Hein. C'est Koh-Lanta. La première condition, c'est d'accepter de vendre beaucoup moins cher. Ça étaye, et dans quelle proportion après ? Le deuxième, c'est d'avoir la confiance des banquiers, ce qui n'est pas simple. Mm-hmm. Donc il faut être issu quand même d'une entreprise qui est relativement pérenne, très fiable et compagnie, et accepter les différentes contraintes qui peuvent être imposées. Et avoir du temps, parce que le montage d'une LBO est fastidieux. Autant, si vous voulez, dans les années 80, les banques acceptaient facilement les LBO, que je peux vous dire qu'en 2017, elles n'acceptent pas comme ça.
Donc vous, quand on vous a exposé l'idée, quelle a été un peu votre réaction ?
La première, un peu de surprise, je m'en rappelle. Wouh ! J'étais jeune, à 25 ans, c'est vrai que c'est un choix de vie. Donc c'était une double prise de décision pour moi, mais c'était déjà une fierté aussi d'avoir une certaine confiance, une certaine reconnaissance aussi. Mais il m'a fallu quelques jours, mais après c'était presque une évidence finalement, parce qu'encore une fois on est une sorte de, je pense, de noyau d'une famille et c'est une aventure géniale.
Voilà, Amélie.
Bonjour.
Commerciale et qui reprend majoritairement l'entreprise. Avec Vincent
Lecaire. Bonjour, Amélie Roule, directrice commerciale du groupe. Aujourd'hui, on a repris vraiment le flambeau sur la partie opérationnelle du management. clairement, les cadres relaient le management d'Eric. Mais c'est vraiment Eric qui nous a formés là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que ce projet était viable. C'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc on était fait pour travailler ensemble et aujourd'hui s'associer.
Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même quelque chose qui se passe au tout début du processus. C'est-à-dire que vous recrutez des personnalités, des gens qui peuvent être totalement compatibles avec...
Je crois que vous avez lâché le juste mot. C'est, on recrute des personnalités. Je n'ai jamais recruté sur un CV, ça n'existe pas. Je ne recrute pas une expérience, je ne recrute quasiment jamais à la concurrence. Mais ils arrivent tous vraiment et ils émanent tous des entrailles même de la générale de bureautique. Ils sont formés dès tout jeunes au berceau, j'ai envie de dire, à la générale.
Est-ce qu'il y a quand même, de ce que vous savez, en moyenne par rapport à ce type d'entreprise, peut-être soit des salaires plus intéressants, soit des aménagements possibles, enfin non.
C'est ni une question de salaire, ni une question d'avantage. Je pense que c'est une question d'adhérer ou pas à la philosophie qu'Eric a mis en place depuis pas mal d'années.
Tout à l'heure, vous parliez de famille. Dans une famille, on a différents rôles. Ici, c'est à peu près la même chose. Hélène parlait de polyvalence tout à l'heure. Il en faut. À partir du moment où une entreprise, enfin un groupe comme le nôtre, est sans cesse en croissance, les besoins sont multiples. Ici, par exemple, on n'a pas d'acheteur. C'est chacun des responsables de service qui va devoir faire ses propres achats. S'il faut acheter des véhicules ou s'il faut acheter des engins, etc., c'est à lui de le faire du début à la fin. Je lui fais confiance pour. C'est pas moi qui vais mener toutes les négociations, j'ai autre chose à faire. Amélie vient d'acheter un CRM, on m'a montré à la fin, et j'avais qu'à valider, quoi. L'expérience prouve que ça marche, quoi. Cette forme de management très participative est importante d'ailleurs pour chacun d'entre nous, aussi bien pour le chef d'entreprise, parce qu'il se trouve délesté quand même de pas mal de missions. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'achète pas, alors que j'ai plein de copains, ils achètent tout, ils s'occupent des assurances, etc. Moi je sais même pas qui sont nos assureurs, quoi. Par contre, je sais que c'est bien fait.
Vincent est le futur PDG. Entré tout jeune dans l'entreprise et biberonné à ses méthodes de management, c'est aussi lui qui devra les faire perdurer.
En fait, quand on arrive dans l'entreprise, on est beaucoup comme ça, à être arrivé jeune dans l'entreprise, il n'y a pas tellement de points de comparaison. On se dit, est-ce que c'est bien normal la manière dont ça se passe dans cette entreprise? Alors déjà, on ne sait pas si c'est bien ou pas bien. On se dit, waouh, c'est quoi cette entreprise? Et après, on prend conscience du fait que c'est bien par le temps. Plus les années passent, plus on se rend compte qu'on est dans une entreprise qui est complètement à part. On aborde les choses sous un autre angle, en fait, avec à la fois beaucoup de sérieux, mais en même temps, beaucoup d'humains sans trop en faire, parce que la finalité d'une entreprise, c'est quand même qu'elle gagne des ronds, qu'elle tourne, qu'elle puisse devenir prospère. Donc ça fait un mélange un petit peu bizarroïde, et puis on prend un malin plaisir à finalement porter ce drapeau-là, et puis vraiment faire corps avec les valeurs de cette entreprise-là.
Alors cette entreprise-là, dans le monde des autres entreprises que vous allez voir, elle est vue comment? Est-ce que la GDB, elle est vue de façon particulière par vos clients, par exemple?
Il y a beaucoup de boîtes qui trouvent que c'est génial, et ça me prouve aussi que c'est possible. En fait, c'est qu'une question de philosophie et d'envie. Je crois qu'on est dans un monde aussi où les gens sont vachement égoïstes, quoi. Eric, s'il l'avait été, il aurait vendu sa boîte au plus offrant. Et voilà, terminé, bonsoir. Et puis ça aurait été quelque part un petit peu normal et compréhensible, puisque le monde tourne comme ça aujourd'hui. Et c'est un peu ce geste qui va justement à l'encontre de ce qui se fait d'habitude, qui a à la fois un clin d'œil et un contre-pied à tout ce qui se fait, que les gens retiennent, en fait.
Un choix logique pour Eric Bellil, pas pour tout le monde, même si ce patron, révolutionnaire dans son genre, estime que l'évolution de la gestion d'entreprise telle qu'il la pratique est inéluctable.
Entre les années 1980 et les années 2010, c'est complètement bouleversé, quoi. Aujourd'hui, les gens ont toujours besoin de travailler, mais ils ont aussi besoin de considération. Avant, ils avaient besoin d'un patron, d'un guide. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. Je vois bien autour de moi que les gens ont envie de participer à l'élaboration de l'entreprise. La plus grande richesse d'une entreprise, c'est pas ses produits, c'est pas sa notoriété, c'est pas sa trésorerie, c'est son personnel. À partir du moment où vous donnez envie au personnel, ça y est, vous savez que vous avez une boîte performante.
Comment ça se fait qu'il y ait autant de chefs d'entreprise qui n'aient pas forcément compris ça?
Faut que j'aille leur dire.
À midi, au menu de la cantine, entrecôte marchande de vin, perdrix aux choux, andouillette au pouilly. Bon appétit. message pour Rigadier Robert à l'atelier 14. Robert, votre femme vient de téléphoner. Votre fils a été reçu au brevet. Toutes nos félicitations. Pour la peine, nous allons vous offrir un disque.
Cette holacratie, le terme savant pour désigner le fait de supprimer des strates pour laisser plus d'autonomie aux salariés, cette holacratie donc, a été poussée à un degré encore plus important dans une biscuiterie française que connaissent tous les spécialistes de la question. Poult, fabricant de biscuits, marque distributeur. On parle là d'un gros groupe, 1200 salariés, plusieurs sites de production et le rachat, il y a peu, d'une usine hollandaise. En 2003, après un énième plan social, Carlos Verkaren, le PDG de Poult, invite tous ses salariés à réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement, moins court-termiste, tout le monde apporte sa pierre, une nouvelle organisation naît, les circuits de décision sont raccourcis, deux niveaux hiérarchiques sont supprimés, l'usine est divisée en quatre unités de production dites agiles, avec aussi certaines limites. Anne-Sophie Chevasson, responsable de la stratégie et du développement du groupe.
Ce qu'on constate avec le temps, c'est que en fait, dans un système dans lequel vous donnez beaucoup d'autonomie aux gens, en fait, vous leur donnez aussi pas mal d'anxiété indirectement. Mmh. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. On remet un certain nombre de repères. On avait ouvert beaucoup de choses et ça a généré une créativité hallucinante. Mais après un certain temps, en fait, le système il est confronté au fait que bah, les personnes peuvent être en manque de repères. C'est-à-dire bah, les gens ont été sur tel ou tel domaine. On a travaillé de façon très foisonnante avec beaucoup d'équipes qui étaient finalement connectées les unes aux autres par les individus. Et en fait, il est important, dans une certaine respiration, de remettre en place de temps en temps quelques repères qui permettent aux gens en fait, de redéfinir des priorités communes, par exemple. Après, c'est hyper exigeant parce que ça ne s'arrête jamais. Quand vous commencez, en fait, comme en plus on est assez précurseur, on a été pionnier dans un certain nombre de réflexions, on doit à un moment donné se poser des questions de sa position, remettre en question en permanence ses façons de faire. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou de prendre des décisions contraignantes, mais vous expliquez, vous faites avec. Donc, ce n'est pas du tout le même type de posture managériale. Donc, déjà, en tant qu'encadrant ou enfin, je ne sais même pas dire cadre ou fonction support, vous n'êtes pas du tout dans la même posture. Donc, c'est exigeant en soi. Mm-hmm. C'est exigeant pour les gens qui prennent plus de responsabilités. C'est vrai que c'est plus reposant qu'on vous dise ce que vous avez à faire et puis terminer, vous faites et puis vous rentrez chez vous. Mais c'est surtout très exigeant pour les gens qui pensent et qui repensent le système. Parce qu'en effet, enfin, moi, je suis là depuis 2008. J'ai commencé à travailler sur ces sujets à peu près en 2009-2010. Et on a revu, repensé. Et en plus, on le fait collaborativement. Donc, c'est aussi assez exigeant. Le système au moins trois reprises. Le président historique du groupe, qui s'appelait donc Carlos Verkeren, est parti il y a un an. Il a été remplacé par le directeur général qui avait travaillé sur ce projet depuis 2006, donc qui était aussi à la fois porteur et puis du coup garant de la continuité du projet. Du fait de la croissance, notamment internationale du groupe, l'actionnaire a souhaité changer cette année, donc il y a deux mois de présidence. À vrai dire, c'est un peu tôt pour savoir comment ça va évoluer, quoi.
Ce modèle d'organisation est-il transposable à toutes les activités, à toutes les tailles d'entreprise, à toutes les cultures? Certains en doutent. Phénomène émergent, certes, mais encore loin d'être dominant.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Ses Patrons, qui dirige autrement un magazine signé Anne-Laure Chouin, réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Valérie Castagnette, qui co-dirige ou qui coach, on peut dire, un cabinet de conseil qui s'appelle La Fabco. Vous allez nous expliquer en détail ce que vous faites, madame, mais on va peut-être d'abord parler, on s'était dit avec Anne-Laure, de la biscuiterie Poult, c'est pas facile à dire, avec effectivement cette biscuiterie qui marche très très bien, c'est quand même le deuxième fabricant après lui en France, et qui a organisé sa façon de fonctionner de façon absolument différente des autres. Mmh. Vous les connaissez assez bien. D'après vous, quelle a été à l'origine vraiment la nécessité qui fait qu'ils ont changé de mode de management?
Oui, effectivement, c'est une entreprise très intéressante à observer, puisque c'est une entreprise qui a une antériorité de plus de 10 ans sur ces types de management innovants. Moi, il me semble que Carlos Verkaren, quand il a repris l'entreprise dans les années début 2000, il avait vraiment une intention de sortir par le haut d'une entreprise qui était en difficulté à l'époque. Il a fait le choix de l'innovation, il a fait le choix finalement de se dire, si on veut être innovant dans ce métier, j'ai plein de têtes pensantes dans l'entreprise et je vais leur faire confiance pour trouver des belles solutions. solution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par libérer l'initiative et l'innovation.
Et alors, très concrètement, ça a changé quoi dans les façons de travailler? Parce que une biscuiterie, il y a des processus assez, voilà, on fabrique un biscuit, c'est à la chaîne, j'imagine. Qu'est-ce que ça a changé dans les façons de travailler?
Oui, à l'origine, c'était une entreprise classique, un peu pyramidale. Ils ont choisi de déhiérarchiser, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé ce qu'on appelait les chefs traditionnels pour les transformer en animateurs. Donc, il n'y avait plus de lien hiérarchique, les équipes étaient plus autonomes. Et l'animateur avait besoin, du coup, de retrouver une valeur ajoutée. On l'a entendu tout à l'heure, la valeur ajoutée intrinsèque, qui n'est pas facile à trouver. Ça a été des moments peut-être un petit peu difficiles pour certains chefs d'équipe qui ont du mal à se trouver. Ça fait partie de la transition et c'est ce qui fait que ça prend du temps.
Mais moi, je lisais, par exemple, qu'ils ont supprimé le comité de direction.
Oui, tout à fait.
Alors ça, par exemple, on se dit, c'est presque impossible.
Alors, c'est un vrai lâcher-prise des dirigeants. Tous les dirigeants n'ont pas ce courage-là. Ça veut dire confier à une équipe fondée avec des gens de plein de niveaux hiérarchiques différents. Il y a les ouvriers dans ce comité qui décidaient finalement, est-ce que cette innovation est intéressante? Est-ce qu'on va lancer ce produit? Et c'est plus les dirigeants tout seuls.
Et alors, justement, alors on ne l'a pas gardé dans le reportage, mais Anne-Sophie Chevasson, donc, qui parlait pour Poult, me disait qu'il y a certains ouvriers qui, en arrivant dans ces petites cellules là où on réfléchit justement aux stratégies de l'entreprise, s'étaient trouvés un peu dépassés aussi par les enjeux ou parce que c'était une matière dont on parlait, dont ils n'avaient pas l'habitude.
Oui, alors c'est aussi pour ça que ça prend du temps. C'est-à-dire que prendre des responsabilités, avoir une vue globale de l'entreprise, se dire que finalement je pourrais être le patron de cette boîte parce que je fais partie de cette équipe de décision, même si c'est une petite décision d'achat de nouvelles machines par exemple, ou décision d'aller ouvrir un nouveau marché parce qu'ils sont beaucoup développés à l'export cette entreprise, et bien finalement ça fait un peu peur au début, c'est un peu vertigineux. Mais c'est ça aussi l'objet de garder les anciens cadres dans d'autres fonctions soutenantes et d'animation de ces types de réunions, mais pas des postures où je décide à la place, plutôt une posture où je fais en sorte que la décision soit collective et soit plus partagée.
On a beaucoup parlé management, on n'a pas beaucoup parlé salaire dans le reportage d'Anne Lorchois. C'est quand même une vraie question qui se pose. Par exemple, chez Poult, ils ont supprimé apparemment toutes les primes individuelles. Est-ce que ça, c'est une tendance qu'on voit dans ces nouvelles sociétés?
Oui, tout à fait. En fait, on voit que les équipes autonomes, c'est-à-dire celles qui décident d'elles-mêmes ce qu'elles veulent faire, ont envie après d'objectifs communs. Elles n'ont plus tellement envie d'objectifs individuels, ça n'a plus tellement de sens. Donc du coup, la prime individuelle n'a plus de sens non plus. Donc ils sont plutôt fiers d'avoir réussi quelque chose, relevé un challenge, lancé un nouveau produit, et ils vont être contents d'avoir des primes collectives ou des avancements ou des intéressements qui sont même plus globaux sur l'entreprise entière, et pas d'avoir une prime individuelle qui ne va pas avec le sens de l'humilité.
C'est une reconnaissance symbolique plus que pécuniaire, quoi.
Non, il y a de l'argent aussi.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais par contre, elle est collective.
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, on est plus fiers d'avoir réussi collectivement en équipe que d'avoir réussi individuellement.
Une autre question vraiment importante, c'est d'après vous, à quoi attribuer finalement ces nouveaux modes de management? C'est une mode ou bien c'est une nécessité due au contexte économique actuel?
Alors, très clairement, ce n'est pas une mode, c'est une tendance lourde qui traverse d'ailleurs plusieurs domaines. Ça traverse la dimension sociétale, la dimension politique. On le voit bien avec ce qui nous arrive aujourd'hui avec le clivage gauche-droite qui disparaît. Aujourd'hui, on a aussi le clivage direction salariée qui est en train de s'effacer. On l'a bien entendu dans les interviews tout à l'heure. Finalement, la proximité entre le patron et le salarié, elle est beaucoup plus présente. Le patron va avoir un intérêt vraiment sincère et authentique pour la vie de ses salariés.
Oui, il y avait même ce monsieur qui disait qu'il pouvait conduire ses salariés, voir leurs parents malades si c'était nécessaire. Enfin bon, c'est vrai que la coiffeuse qui dit à quel point sa patronne est humaine. Ça vous semble essentiel.
Alors, c'est incontournable.
Est-ce que c'est une quête de sens des patrons, des employés? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné le climat économique, l'absence de travail, le chômage de masse, on se dit, bon, ce qui est important dans la vie, c'est surtout la vie privée. À quoi vous attribuez cette tendance lourde qui monte? Quel facteur explicatif?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs courants qui sont en train de se rejoindre aujourd'hui. Il y a effectivement le souci du bien-être, qu'on entend beaucoup ce mot-là. Il y a aussi le fait de trouver un sens à sa vie. Moi, je vois beaucoup de dirigeants qui se demandent, mais finalement, pourquoi je suis là à diriger cette entreprise? À quoi je sers? Quelle est mon utilité profonde? À quoi, finalement, je vais être content, finalement, de ma semaine, de mon mois, de mes 10 ans dans cette entreprise? De quoi je serai fier dans 10 ans? C'est jamais l'argent. Jamais.
On peut faire référence juste rapidement à ce discours d'Emmanuel Faber, qui est le PDG de Danone, à des étudiants de HEC. Enfin, je conseille aux auditeurs d'aller voir sur un site internet, n'importe lequel, mais c'est très parlant et c'est exactement ce qu'il dit.
Oui, c'est exactement ce qu'il dit. Alors moi, j'ai travaillé chez Danone, donc je suis effectivement empreinte de ces valeurs-là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'humain. Avant, on essayait un peu, ça ne marchait pas complètement. Aujourd'hui, les patrons et les salariés aussi ont envie d'un autre rapport ensemble. On parlait de collaboratif là, dans les interviews. Je crois que finalement, le maître mot, c'est la coopération. La coopération, c'est ce qui fait que finalement, on n'est pas en compétition. On est en train de faire une belle aventure ensemble, et on est en train de réussir des challenges ensemble.
Mais est-ce qu'on peut imaginer ça à une échelle aussi grande qu'une multinationale comme Danone, par exemple? Parce que nous, vu d'ici, on s'imagine dans une petite entreprise ou moyenne entreprise, jusqu'à 1 000, 1 500 peut-être salariés, ça peut marcher, mais 10 000, 15 000, est-ce que ça peut fonctionner quand même?
Oui, bien sûr. On l'observe de partout. En fait, moi, j'interviens dans différentes entreprises de taille très variée. Et dans la littérature, vous pourrez même trouver des aventures passionnantes d'entreprises qui ont plus de 20, 40, 70 000 salariés, qui fonctionnent sur ces modes-là. Qui fonctionnent même sur des modes où, si je prends un exemple, ce sont les salariés qui décident entre eux de leurs augmentations. En fonction de, est-ce que cette année, j'ai été fortement contributeur et moi, je vais proposer moi-même ma propre augmentation pour moi et je vais la soumettre au consentement, je vais la soumettre à l'avis de mes collègues et pas de mes hiérarchiques parce que j'en ai pas de toute façon.
Et alors, comment on neutralise les comportements, on va dire, individuels dans ce cas-là? Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un s'octroie une grosse augmentation parce qu'il estime qu'il a bien fait son travail et que, bon, voilà, c'est difficilement objectivable.
Oui, alors il y a toujours une régulation du groupe dans ces cas-là. Et j'ai envie de dire, c'est très rare que les gens aient ce comportement, on va dire, très individuel. Finalement, les gens ont plutôt tendance à être humbles, à demander moins que ce qu'ils valent. Donc, en fait, le risque n'existe pas.
Ah oui, ça on le constate vraiment, c'est vrai que c'est intéressant à noter. On se demandait quand même aussi, on a entendu un certain nombre de critiques émises à la toute fin par la dame qui dirige la stratégie chez Poult par exemple. Est-ce qu'on est tous capables d'être force de proposition? Ça, c'est une question qu'elle a posée, elle parlait de l'anxiété de ses salariés. C'est une vraie question, est-ce que tous les membres d'une entreprise peuvent se mettre à la place du patron?
Oui, alors il y a plusieurs réponses, d'abord ça s'apprend. Clairement, nous, les coachs, on aide justement ces entreprises à apprendre à travailler en collectif, à faire du collaboratif, à être créatif. Tout le monde est créatif quand on peut s'entraîner un peu dans ce jeu de jambes-là.
Mais vous faites quoi pour les débloquer, les décoincer,
alors,
les aider?
Oui, on a des modes d'intervention un peu ludiques où on les sort un peu du cadre, on les fait rencontrer des entreprises qui n'ont rien à voir avec leur secteur. Et ça permet de se dire finalement, il y a d'autres choses qui existent ailleurs. Pourquoi on le ferait pas chez nous? À notre manière, évidemment, on transpose les choses, mais sortir les gens de leur entreprise est une forme de ça.
Oui, il y a beaucoup de techniques. On pense au team building, à tous ces séminaires. Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça fait pas un peu gadget de manager pour voilà? Est-ce que tout ça n'est pas parfois un peu artificiel?
Alors, d'abord, ça marche pas toujours. Soyons clairs, mais au moins, faut avoir le courage d'essayer. Parfois le contexte et le moment c'est le bon et là ça fait de la magie, même certains clients qui nous disent mais comment ça fait que ça marche aussi bien, et d'autres fois où ça galère, ça prend du temps, on s'y reprend à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois parce que c'était pas encore mûr. Et ça, c'est un peu au coach de sentir avec les demandeurs à quel endroit on va, à quel moment, pour que ce soit pas non plus violent pour les gens, parce que quand on dit que c'est artificiel, c'est quand c'est trop tôt et que c'est trop loin et trop vite, trop fort
et qu'on n'y trouve pas de sens,
ou que simplement on n'est pas prêt.
Est-ce que, c'est une question aussi que je me posais, certains patrons viennent vous voir pour appliquer ces techniques ou en sont en demande d'application de ces techniques, mais que c'est pas plutôt une question d'image de leur entreprise plutôt qu'une vraie volonté de changer de management?
Moi, je dirais que c'est une minorité, ceux qui nous demandent des questions d'image. Et puis ceux-là, on les fait réfléchir d'abord sur, finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes très profondément qui les fait chercher un autre mode de management. Et on commence dans ces cas-là par coacher le dirigeant. Ça peut prendre un certain temps.
Oui, parce que vous coachez évidemment tout le monde à la fois dans une entreprise. En général, les patrons vous demandent de faire évoluer l'ensemble.
Oui, c'est ce qu'on appelle le coaching d'organisation, c'est-à-dire qu'on va marier des interventions sur le terrain avec les équipes terrain, les ouvriers, les techniciens, les employés, et on va aussi intervenir auprès du management intermédiaire pour les aider justement à trouver une autre valeur ajoutée dans un mode qui soit moins directif, un peu plus participatif ou collaboratif. Et on va aussi intervenir sur la partie stratégique qui est plutôt réservée à la direction dans un premier temps, mais qu'après on fait descendre dans les étages. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment très intéressant.
Et quand on parle d'autonomie, est-ce qu'il y a quand même pas un risque, à force d'autonomiser les salariés, de les obliger finalement à se responsabiliser tant que la barrière entre le travail et la vie privée devient plus ténue, qu'ils ramènent du boulot à la maison, qu'on les sollicite en dehors de leurs heures de travail? Est-ce que ça, ce sont des choses dont ils vous font part?
Oui, on les observe. C'est vrai que la frontière pro-privée est de plus en plus poreuse. La société est comme ça. En plus, on est connecté. Effectivement, il y a le droit à la déconnexion. Ça, c'est une vraie question dans certaines entreprises. Après, est-ce que les personnes sont engagées parce que leur métier les passionne? Ou est-ce qu'elles sont engagées parce que, je ne sais pas, elles se sont mis un challenge sur 6 mois, sur 18 mois? En fait, chacun a sa propre réponse. Il n'y a pas une réponse pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'engagement individuel, quand on fait un petit peu la photo d'une équipe, il n'est jamais pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient tous centrés vers un objectif commun. Et là, vraiment, ça fait des belles choses et tout le monde en récupère un bénéfice, une reconnaissance par l'équipe, en fait.
Alors,
dans ce reportage, et je le disais en introduction, j'ai rencontré des vraies personnalités avec des vrais charismes qui sont capables de susciter l'adhésion autour de leur projet, même quand le métier est dur. J'imagine que c'est pas inné, tous les managers n'ont pas cette personnalité-là ou ce charisme-là. Comment on suscite l'engouement derrière un projet et donc comment on donne du sens au travail d'un personnel alors que ça peut être des travaux durs?
Oui, alors les travaux durs existent, les travaux répétitifs existent. Effectivement, le sens aujourd'hui pour un dirigeant est important, c'est lui qui le porte, mais il doit le porter avec un petit peu de discrétion. C'est-à-dire qu'il doit être là, présent sur le terrain, présent avec les différentes entités qu'il dirige, mais pas écrasant, pas étouffant. Et c'est vrai que c'est un pas de côté qui est pas très facile pour certains dirigeants qui ont l'habitude de tenir le pouvoir dans leurs mains. Et là, il faut qu'ils le donnent.
Et parfois, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'il en est des organisations syndicales? Parce qu'on a quand même notre vision ancienne de l'entreprise, avec d'un côté, malgré tout, le patronat, de l'autre, les salariés représentés par leurs représentants syndicaux qui défendent leurs droits. Est-ce que tout ça, ça vole en éclats dans vos nouveaux modes de management?
Alors, ça vole pas en éclats, parce qu'en fait, on a besoin des syndicats pour faire alliance et pour voir qu'en fait, on a une action qui est synergique. On va ensemble, en même temps, avec, je dirais, une intention pleine de valeurs humaines, pleine de bien-être pour les salariés. Donc en fait, on n'est pas opposants, on est en synergie et on va dans le même sens. Et on a besoin aussi de cette voie de communication qui fait du bien à tout le monde.
Mais
comment vous êtes perçu par les syndicats dans les gros groupes où vous arrivez?
Alors clairement, au début, ils se méfient de nous, ce qui est normal, parce qu'on est quelque part envoyé par la direction. Mais au bout d'un moment, ils voient bien que les objectifs qu'on essaye de faciliter, puisque nous on ne fait rien, c'est le client qui fait tout, vont dans leur sens. Et une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas contre eux, tout va beaucoup mieux. On sort du clivage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais l'individualisation quand même des rapports, parce que j'imagine qu'il y a toujours un patron, enfin peut-être pas partout, vous allez me dire qu'il y a peut-être des entreprises sans aucun patron, où complètement hiérarchique, enfin horizontal. Mais la relation individuelle donc entre les salariés et le patronat ne se fait jamais au détriment du salarié qui pourrait avoir l'impression qu'on lui met la pression finalement, puisqu'il n'y a plus peut-être le syndicat qui faisait garde-fou ou le truc collectif, la négociation collective qui pouvait l'aider.
Alors, les démarches qui réussissent vraiment, c'est quand le dirigeant ou le comité de direction ou collectivement les dirigeants font vraiment confiance aux collaborateurs et aux salariés. Et là, il n'y a pas de pression, parce que si je lui fais confiance, je ne vais pas aller le contrôler tous les matins pour voir s'il fait bien son travail. Et du coup, la pression diminue, en fait.
Est-ce que ce genre de management, donc plus démocratique, on peut dire, peut survivre à des grosses difficultés économiques pour l'entreprise qui la met en place?
Alors là, on touche à un sujet sensible, parce qu'effectivement, soit l'entreprise, si elle a une taille importante, a, je dirais, des actionnaires qui la surveillent, qui donnent des décisions stratégiques, va suivre pendant ce moment un petit peu chaotique de difficultés. Mais s'ils ne les suivent pas, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que on peut avoir tendance par peur à reprendre les manettes et à refaire du contrôle. Et là, on détruit le système très très vite d'ailleurs.
Donc vous avez vu des cas comme ça concrets?
Ça existe, oui. Pas chez mes clients personnellement, mais ça existe.
Et alors je retourne la question, est-ce qu'on peut lier la mise en place d'un nouveau management de ce type et les performances économiques de l'entreprise? Et comment c'est quantifiable?
Alors bien sûr c'est lié, je dirais même c'est l'œuf et la poule. Finalement, si vous prenez soin de la poule, elle va vous faire des œufs d'or. Si vous ne prenez pas soin de la poule, les œufs vont être un peu ternes. Donc oui, en plus ces entreprises surperforment. Clairement, un salarié heureux, il va avoir envie de s'engager beaucoup plus. Il va collectivement en plus faire des belles choses avec ses équipiers.
et forcément ça fait du résultat.
Mais à vous entendre, c'est tellement évident qu'on imagine que toutes les entreprises doivent fonctionner comme ça. Comment expliquer ? Vous nous disiez que c'est une tendance de fond, mais c'est quand même loin d'être partagé par tout le monde. Comment expliquer que toutes les entreprises s'y mettent pas, par exemple ?
Alors c'est exponentiel. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, ces demandes-là ne font que se multiplier.
Vous auriez donné un chiffre, pourcentage d'entreprises en France ?
Alors oui, il y a un chiffre mondial qui disait que à peu près entre 5 et 10% des entreprises commençaient vraiment à être sur ce chemin. Moi, je pense que en France, on est un peu plus que ça. Il me semble qu'en France, on va plus vite que dans d'autres pays, mais c'est mondial, hein, c'est pas un phénomène français.
Et du coup, est-ce que c'est un phénomène qui commence à infuser dans les écoles de commerce, les cursus RH ?
Oui, et heureusement. C'est un peu tard, mais heureusement, oui, ils commencent à s'y mettre. Toutes les écoles de commerce s'y mettent. Moi, je fais le vœu qu'à l'école, on apprenne aussi à avoir ces relations de bienveillance, de coopération et pas de compétition.
C'est encore un peu. Mais c'est quand même une modification, n'a plus beaucoup de temps, mais de culture finalement. Enfin, on n'en est pas encore tout à fait là.
Si. Moi, je pense qu'on est vraiment là. Si on regarde aujourd'hui la société, elle évolue à une vitesse folle. Eh ben forcément, ça a de l'écho dans l'entreprise ou l'entreprise a de l'écho dans la société. Je ne sais même plus par quelle boule commencer. Et en fait, tout ça va dans la même synergie. C'est pour ça que j'y crois très fort. À mon avis, dans 10-15 ans, ce sera la majorité des entreprises.
Donc, ça veut dire que l'évolution est extrêmement rapide. Merci beaucoup, Valérie Castagnette, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction. Ces patrons qui dirigent autrement, reportage d'Anne Lorchouin, réalisé par Annie Brault. Merci également à Chloé Yvinou, à la technique ce soir, que je remercie également Alexandre Dang. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster et la commenter, bien sûr, sur notre site franceculture.fr.